186.
Au dernier cours d'éthique, vous nous avez donné les divers éléments qui caractérisent un amour d'amitié. Nous aimerions savoir quelle place vous donnez à la bienveillance parmi ces éléments. C'est ce que nous allons voir. Après avoir montré toute la richesse de cette expérience, c'est sûrement parmi nos expériences humaines une des expériences les plus riches. Je vous avais dit à propos du travail que l'expérience du travail est la plus riche du côté de l'extension. Et l'expérience de l'amour d'amitié est la plus riche du côté de la compréhension. C'est intéressant de mettre en parallèle ces deux expériences qui sont irréductibles l'une par rapport à l'autre. Bien évident, quand vous travaillez, vous n'êtes pas dans l'attitude de l'amour d'amitié. Et si vous commencez à les confondre, ça va mal. Parce que vous labourez le champ à la place de le respecter et de le regarder. Et ce n'est pas la même chose. C'est très curieux de voir ça dans notre monde d'aujourd'hui, où il y a des confusions constantes entre l'agir et le facere. Si on est un peu saisi par la philosophie de Sartre, ce que beaucoup de Français sont, parce que Sartre est prophète de la culture d'aujourd'hui. Prophète, vous voyez bien dans quel sens, hein. Bah, divinement prophète, mais prophète dans le sens où, au Café des Fleurs, il sentait bien ce qui se passait dans la culture d'aujourd'hui. Et il l'exprimait, il le disait. Et c'est pour ça qu'il a eu ce succès, parce qu'il exprimait ce qui se passe aujourd'hui. Or, si vous regardez Sartre, vous voyez la confusion constante entre l'agir et le facere. C'est un des philosophes où la confusion est la plus nette. On passe de l'un à l'autre sans le vouloir, sans le savoir. Du moins, consciemment, on a vraiment l'impression que on est dans le facere, dans l'efficacité, tout le temps, tout le temps. Si vous confondez le facere et l'agir, vous confondez l'amour d'amitié et le travail. Et vous considérez l'ami comme une matière à transformer. C'est une pâte chaude grâce à l'amour et vous pouvez donc en faire ce que vous voulez. C'est très curieux, c'est une réaction très spontané, ça. Quand un garçon annonce à ses parents qu'il aime une fille, ou l'inverse, c'est encore plus éloquent de l'autre côté. Quand une fille annonce à ses parents qu'elle aime un garçon, et que les parents commencent à connaître le garçon d'un œil qui n'est pas du tout amoureux, mais un œil d'examinateur, ou d'examinatrice, qui plus, lorsqu'on est mère, on voit tout de suite tous les défauts, immédiatement. Et on dit, tu n'as pas vu, tu n'as pas remarqué. Et l'autre répond, je l'aime tellement qu'il changera complètement. Il n'y a qu'en Dieu où l'amour réalise ce qu'il signifie. Parce qu'en Dieu, la distinction de l'agir et du facere n'existe pas. L'acte créateur est au-delà de la distinction de l'agir et du facere. C'est du facere Et c'est en même temps de la gérer. Parce que Dieu est Père en tant que Créateur. Il crée dans l'amour. Et l'acte créateur est un don. Mais n'est pas d'efficacité pure. C'est ex nihilo. Tandis que pour nous, autre chose, le facere, autre chose, l'adgere. Autre chose, l'expérience de l'amour d'amitié, qui implique le respect de l'autre. Autre chose, le facere, le travail, qui implique l'expérience de la matière. La personne humaine n'est jamais une matière à transformation. La personne humaine est quelqu'un qu'on respecte et qu'on veut respecter parce qu'on l'aime. Et plus on aime, plus on respecte. Tandis que le respect de la matière, c'est vrai, il faut un respect de la matière. Et les artisans ont un respect de la matière. Ils savent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Il y a un respect de la matière. Mais le respect de la matière n'est pas du tout un respect qui consiste à ne pas la transformer. C'est un respect pour qu'on coopère. Et qu'on n'exploite pas. Autre chose, exploiter, autre chose, coopérer. Vous voyez, il y a trois choses à voir, là, qui sont très importantes, et qui se précisent à l'intérieur même de l'expérience. Celui qui aime sait ce que c'est que le respect. Celui qui travaille sait ce que c'est que la coopération. Il le sait. Alors, nous partons donc de cet amour d'amitié. Nous avons vu tous les divers éléments qui étaient dedans. Alors, comparez l'expérience de l'amour d'amitié, l'expérience du travail. Vous verrez que le travail, dans son expérience, a une extension beaucoup plus grande. Puisque vous avez l'expérience de la matière qui est autre que vous. Tandis que dans l'expérience de l'amour d'amitié, vous avez l'expérience de quelqu'un qui est autre que vous et qui vous transcende, et qui vous transcende plus que la matière, puisque vous la respectez plus. Normalement, vous respectez plus la personne humaine que la matière que vous travaillez. Il y a donc une compréhension plus profonde dans l'expérience de l'ordre, dans l'amour d'amitié, et une extension moindre. Vous êtes mobilisé plus profondément dans tout votre être par le travail, surtout le travail manuel. C'est pour ça que le travail manuel nous remet dans un réalisme plus grand que l'amour d'amitié. La rectification par le travail se fait plus immédiatement que par l'amour d'amitié. L'amour d'amitié ne vous rectifie pas en premier lieu. L'amour d'amitié ne vous donne pas le sens du réel d'une manière parfaite. C'est le travail. Les psychologues ont parfaitement raison de dire que c'est le travail manuel. Je dis bien le travail manuel, le travail intellectuel aussi. Si on respecte ce que c'est que le travail intellectuel, réaliser quelque chose, écrire une dissertation, c'est excellent. Ça nous remet dans le réel. Tandis qu'uniquement l'appréhension ne vous remet pas dans le réel. Uniquement l'assimilation ne vous remet pas dans le réel. Il faut réaliser quelque chose. C'est dur. Parce qu'il faut se jeter à l'eau. Il faut recommencer plusieurs fois, mais il faut y aller. Et c'est ça qui nous rectifie. Comme le travail manuel nous rectifie. Parce qu'il y a une matière. Faire la cuisine, ça rectifie. Parce que si on est un tout petit peu planeur en faisant la cuisine, vos repas. Il planera. Mais ça n'ira pas. Il faut qu'il soit cuit à telle heure, il faut que ce soit fait à telle heure, il faut autant que possible que ce soit bon et mangeable. Donc tout ça, ça rectifie. On regarde l'autre. C'est très important, ça. L'expérience de l'amour d'amitié ne nous rectifie pas tout de suite. C'est pour ça qu'il peut très bien y avoir une intervention d'un certain idéalisme dans l'amour d'amitié. Tandis que dans le travail manuel et la réalisation d'une dissertation, c'est pour ça qu'on vous demande de réaliser des dissertations pour maintenir ce contact avec le réel. Suivre les cours, ce n'est pas suffisant. Parce que vous pouvez suivre les cours en pleine heure. Si chaque fois que vous étiez distrait, il y avait un signal d'alarme, je crois que le professeur n'aurait plus un mot à dire. Parce qu'il y aurait le signal d'alarme constamment, à droite et à gauche. Avec les distractions qu'on a, on est pleine heure. C'est l'appréhension. Écouter un cours, c'est l'appréhension. C'est excellent. Ça éduque notre réceptivité. Mais notre réceptivité doit s'achever dans le jugement. Et pour écrire, faire une dissertation, c'est le jugement. L'appréhension, non. Il faut sentir ça, l'expérience de l'amour d'amitié, l'expérience du travail. Et toujours équilibrer notre vie par les deux. L'amitié augmente l'affectivité. Mais l'affectivité peut être très bien imaginative et à ce moment-là idéale. Et à ce moment-là, elle fait de nous des planeurs. C'est très beau. Des planeurs affectifs. C'est les avions le soir avec leur feu lumineux. C'est très beau. Mais c'est pas réaliste. Et l'amour d'amitié vrai irréaliste. Alors c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Quels sont les différents éléments qui impliquent dans l'amour d'amitié? Le premier, c'est l'amour. L'amour spirituel. Qu'est-ce que c'est que l'amour spirituel? Qu'est-ce que c'est que cet amour spirituel? Qu'est-ce que ça représente? Cet éveil en nous de l'amour. Ce premier moment de l'amour. Oui, la chaleur du duvet du nid. C'est quelque chose de très particulier. Quand notre cœur commence à aimer, notre cœur spirituel, pas notre cœur biologique, parce que alors à ce moment-là, les battements sont plus forts. Vous pouvez dire, on commence à aimer parce que votre cœur bat avec une rapidité extraordinaire. Non, votre cœur spirituel. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est notre réponse à un bien qui nous attire. Le bien attire. Le bien suscite un amour. Le bien réalise en nous un amour. Le bien connu. Il faut le connaître. Pour que ce bien suscite en nous un amour. On le connaît instinctivement. L'enfant connaît sa mère instinctivement. Et par cet instinct, il aime naturellement sa mère. Il y a un amour naturel. C'est le premier amour. Faut pas l'oublier. Et si c'est le premier amour, il conditionne tous les autres amours, parce qu'il est premier. Mais il ne spécifie pas tous les autres amours, heureusement. Parce qu'autrement, on resterait dans le berceau. On resterait toute sa vie dans les bras de sa mère. Ça pèserait un tout petit peu. Parce que l'enfant grossit. Et il prend des dimensions qui font que la mère ne peut plus le porter dans ses bras. Mais il faut bien comprendre que ce premier amour est éveillé par l'instinct. Et ce premier amour n'est pas uniquement instinctif, il est spirituel. Il y a un amour spirituel, un amour humain. C'est très très difficile de préciser le caractère spirituel de ce premier amour, parce qu'il est tellement instinctif. Et on dira de l'extérieur, c'est pas étonnant que l'enfant aime sa mère, parce que la mère est source de la nourriture, du milieu, de la chaleur pour l'enfant. Dès qu'il pleure, la mère est là. Donc, elle le console. Et on aime bien être consolé. Quand on continue de pleurer, on aime bien être consolé. Et le consolateur est toujours maternel. Tout. C'est la mère qui essuie les larmes. Il n'y a que le Père des cieux qui essuie nos larmes, parce qu'il est maternel. Mais c'est la mère qui essuie les larmes. Nos premières larmes ont été essuyées par notre mère. Et ça restera toute notre vie. La mère est celle qui nous a donné la nourriture, le lait maternel. Il y a un lien qui demeure. Tout le temps. Alors, vous dites, ça c'est l'instinct. Oui, mais c'est l'instinct d'un être spirituel. Le petit enfant, il a une âme spirituelle. Et donc, c'est pas l'instinct tout court. C'est un instinct qui éveille un amour spirituel. Cet amour spirituel naît à l'intérieur de l'instinct. Et quelquefois, il est entièrement déterminé par l'instinct, mais à un moment donné, il va dépasser l'instinct. Ce sera la première victoire de l'amour spirituel. C'est de découvrir quelqu'un. Alors, on ne précisera pas. Le philosophe dira découvrir une personne. Et pas uniquement celle qui assouvit les instincts, celle qui console. Découvrir l'autre qui nous attire. Découvrir l'autre qui maintient en nous la confiance. L'amour est lié à la confiance. Et la confiance donne la sécurité. C'est pour ça que le premier amour spirituel qui naît à l'intérieur de l'instinct, qui naît à l'intérieur de ces liens si forts de l'enfant à l'égard de sa mère, ces liens instinctifs, qui sont les liens les plus forts, c'est le lien le plus fondamental, ce lien-là, de l'enfant à l'égard de sa mère. Je vous ai déjà dit, et c'est intéressant de regarder l'antithèse, ce psychanalyste qui habitait tout près de Neuchâtel, je ne sais pas où il habite maintenant ou s'il est déjà parti dans la patrie. Cette psychanalyste, c'était quand j'étais à Fribourg, où j'avais de temps en temps de ses nouvelles. Il habitait tout près de Neuchâtel et il voulait être plus freudien que Freud, plus royaliste que le roi. Il le disait lui-même. Freud a montré le danger du père, et lui veut montrer le danger de la mère, en montrant que la mère, c'est le danger numéro un pour l'enfant, à cause de l'amour maternel qui est captatif, et qui est envoûtant, et qui prend l'enfant d'une manière telle qu'il empêche l'enfant de se développer, d'être lui-même. Et c'est pour ça qu'il s'était donné comme mission de supprimer cet amour maternel. Et donc de supprimer l'instinct premier de l'enfant qui se porte vis-à-vis de la mère. Et qui voulait mettre tout l'argent qu'il gagnait comme psychanalyste freudien, le mettre au service d'un institut. Je ne sais pas si ça a été fait à Genève pour essayer d'éduquer des gens à supprimer ce premier instinct de l'enfant vis-à-vis de la mère. C'est assez démoniaque. Mais c'est très intéressant de regarder la gargouille, hein, les grimaces à l'égard de l'amour, et de voir qu'il était farouche. J'ai lu certains de ses écrits là-dessus, c'était terrible. Il fallait à tout prix supprimer, surtout pour nous, quand on regarde ça d'un point de vue théologique, l'amour maternel de Marie à l'égard de l'enfant Jésus, l'amour de l'enfant Jésus à l'égard de Marie. Ce qui est, au point de vue humain, ce qui est de plus noble, ce qui est de plus beau, ce qui est de plus grand, ce qui est de plus généreux, supprimer ça pour libérer, vous voyez, théologie de la libération, elle commence là, libérer l'enfant de ce carcan maternel. Qu'il y ait des mères captatives, on le sait bien, c'est bien évident qu'il y ait des mères captatives. Mais c'est pas parce qu'il y a des mères captatives que l'amour maternel est un mâle. Ce n'est pas parce qu'il y a des mères captatives que l'instinct profond de l'enfant qui le porte vis-à-vis de sa mère est quelque chose de mauvais. Au contraire. Cet instinct, il est bon. Je crois que c'est la première stabilité. Et quand un enfant n'a pas eu ce lien avec sa mère, il y aura toujours une instabilité chez lui, qui demeurera. Je dis toujours, c'est pas vrai, la grâce permet de reprendre tout. L'Esprit Saint ressuscite les morts. Et donc, il peut faire que même cette frustration première, qui est terrible, au point de vue humain, soit dépassée. Et utilisé pour un plus grand amour. L'amour par rapport à Marie. Par rapport à notre véritable mère. Ça, c'est au point de vue théologique que je dis ça. Au point de vue humain, je pourrais dire que cette première frustration qui est dans l'ordre du conditionnement et de l'instinct maternel peut être dépassée, mais avec beaucoup de difficultés. Parce que le premier amour ne spécifie pas, mais conditionne tout autre amour. Vous voyez comme c'est important, cette petite distinction que le freudisme n'a pas fait. C'est toute l'erreur du freudisme. C'est de confondre la spécification et le conditionnement. Une fois que vous avez cette petite clé, vous pénétrez dedans sans aucun danger. Vous pénétrez dans le coffre-fort freudien parce que vous avez la clé. Et la clé, c'est ça, c'est la confusion entre les spécifications et le conditionnement. Si spécification et conditionnement sont les mêmes choses, je suis tout à fait d'accord avec Freud que le premier amour conditionne. Et s'il conditionne, il détermine par le fait même si ce premier amour a été si on était frustré ce premier amour, toute notre vie, on n'arrivera pas à aimer. Alors que si on distingue conditionnement et spécification, ce qu'il faut faire pour maintenir la différence entre l'instinct et la volonté spirituelle, pour distinguer l'instinct de l'intelligence. Alors à ce moment-là, on fait la distinction entre le conditionnement et la spécification. C'est capital, ça. Il faut arriver à le faire dans tous les domaines. Distinguer ce qui est premier dans l'ordre génétique, qui conditionne tout ce qui vient ensuite. Vous voyez, le premier dans l'ordre génétique, hein, au point de vue théologique, c'est Adam. Il conditionne pas mal de choses. Mais il ne spécifie pas. Le péché originel nous conditionne et ne nous spécifie pas. Luther fera la confusion. C'est le premier freudien. Confusion entre le conditionnement et la spécification. Si le péché originel spécifie, vous n'en sortez pas. Vous n'en sortez plus. Et la nature est corrompue radicalement. Si le péché originel conditionne, vous ne pouvez en sortir. La grâce donne une nouvelle détermination. Vous voyez, comme tout se tient, c'est extraordinaire de bien saisir ces choses-là à la racine. Donc, ce premier amour instinctif, si fort, lie l'enfant à sa mère. Et cet amour pourra, en se développant, devenir un amour spirituel extrêmement beau. C'est quand le fils aime sa mère, quand la fille aime sa mère, au-delà du conditionnement instinctif. L'amour pour nous, l'amour spirituel, naît à partir de l'instinct. Mais l'amour spirituel dépasse l'instinct. Et je crois que c'est vrai du premier amour qui nous conduit à un amour spirituel. Et je dirais que c'est vrai la plupart du temps à l'égard de tout amour humain. Sauf quand on est vraiment entièrement donné à Dieu. Alors à ce moment-là, il y a cette chose toute nouvelle, c'est que l'amour à l'égard de Dieu peut être source d'un nouvel amour qui est un amour humain. Et c'est toujours très important de voir comment un amour humain est né. Est-il né à partir de l'instinct? Est-il né à partir de l'amour surnaturel? Il y a deux origines très différentes de l'amour humain. Quand un amour humain est né à partir de l'instinct, il faut que cet amour spirituel dépasse le conditionnement. Il arrive progressivement à prendre conscience de ce conditionnement instinctif et sensible. Quand un amour naît à partir d'un point de vue spirituel, à partir d'un amour divin, il faut que cet amour divin demeure toujours pour assumer cet amour humain. Et il n'est pas rival de cet amour humain. Alors que quand un amour naît à partir d'un point de vue sensible, d'un point de vue qui peut être sexuel, parce que c'est l'instinct, et il y a un instinct sexuel. Et quand cet amour naît à partir d'un point de vue sexuel, il faut que l'amour spirituel soit victorieux de ce conditionnement. C'est-à-dire le dépasse. Et il peut le dépasser. Parce que l'amour volontaire, spirituel, est plus fort que tout amour instinctif. L'amour instinctif, psychologiquement, apparaît comme plus fort. Il apparaît avec une véhémence beaucoup plus grande. C'est la véhémence de la passion. Et la passion a une véhémence unique. Tant qu'on est passionné, tant qu'on est jeune, alors la passion a une véhémence extraordinaire. C'est pour ça qu'Aristote dit qu'on ne peut pas faire d'éthique quand on est jeune, sauf si on est religieux et chrétien. Mais pour Aristote, je comprends très bien. On peut faire l'éthique à partir d'un certain âge, c'est-à-dire 45 ans. Pour un païen, c'est normal. Parce que la passion est véhémente. Elle empêche l'éclosion de l'amour spirituel. Dans Platon, c'est net. Il n'y a que Socrate qui parle de l'amour spirituel. Agathon, pas du tout. caresser la douceur des coussins, de l'oreiller. C'est la chaleur du nid. L'amour spirituel doit être victorieux de la passion. La passion est première génétiquement. Et elle est véhémente. Donc, psychologiquement, la passion apparaît toujours comme plus forte et plus consciente que l'amour spirituel. Mais l'amour spirituel a une force plus grande que la passion. Dès que vous regardez l'amour au niveau philosophique, c'est-à-dire au niveau réel, pas seulement au niveau du conditionnement, au niveau de la finalité. Vous voyez que l'amour spirituel va beaucoup plus loin. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, pas toujours, l'amour spirituel naît à partir de l'instinct et à partir des passions. Chez un chrétien digne de ce nom, l'amour spirituel peut naître à partir d'un amour divin. Alors c'est tout à fait différent. Donc, ceci, c'est très important de se le rappeler. La naissance de l'amour spirituel en nous, c'est très difficile. Et je crois que la psychanalyse ne peut pas nous le dire. C'est très difficile de savoir à quel moment l'amour spirituel est victorieux de l'instinct, est victorieux de la passion. Je crois que c'est très difficile à déterminer. Parce que comme toujours, quand c'est dans un devenir, c'est toujours très difficile à préciser. Mais l'amour spirituel, quand il est parfaitement lui-même, se distingue de l'amour passionnel et de l'instinct. Quand il est suffisamment lucide, nous pouvons arriver à discerner en nous ces diverses sources d'amour. L'instinct est une première source d'amour. La passion est une seconde source d'amour. Il y a une troisième source d'amour en nous, c'est l'amour romantique, l'amour esthétique. Et puis il y a une quatrième source d'amour en nous, qui est l'amour spirituel. Au plan philosophique, il y a quatre sources d'amour. Alors, ici, je ne regarde pas ces sources, je les présuppose. Je sais qu'elles existent. Et chaque fois, il y a une qualité différente d'amour. L'amour instinctif est autre chose que l'amour passionnel. L'amour passionnel est autre chose que l'amour esthétique. Et l'amour spirituel est autre chose que l'amour esthétique, et que l'amour passionnel, et que l'amour instinctif. Nous pouvons, et je dirais, c'est le propre du philosophe, de réfléchir sur les diverses sources d'amour qui sont en lui. C'est excellent de faire ça, c'est une purification. Et c'est une prise de conscience plus nette de ce que représente notre personne humaine qui aime. Et si nous sommes chrétiens, nous avons une cinquième source, l'amour divin, à partir du cœur de Jésus. Et l'amour divin assume l'amour spirituel, volontaire, assume l'amour imaginatif, esthétique, assume l'amour passionnel, assume l'amour instinctif. Et nous devons essayer de comprendre qu'il y a en nous cette lucidité. Alors, je laisse de côté l'amour chrétien, l'agapé. Nous laissons de côté. Et nous regardons uniquement les quatre sources d'amour qui sont en nous. qu'est-ce qui caractérise l'amour volontaire? Cet amour volontaire qui naît de cette manière cachée, qui naît à travers l'instinct, à travers la passion, du moins qui peut naître à travers l'instinct, à travers la passion, à travers l'amour esthétique. Cet amour spirituel a ceci de particulier, c'est qu'il se porte sur un bien spirituel. Je ne dis pas universel, mais un bien spirituel qui est la personne humaine. Et j'aime l'autre pour lui-même. C'est ce qui caractérise cet amour spirituel. J'aime l'autre pour lui-même. Et j'essaie de l'aimer de plus en plus pour lui-même. Et cet amour me porte vers lui, vers la personne. Puisque parmi les biens spirituels, concrètement, n'existe que la personne. Cet amour spirituel présuppose une certaine connaissance intellectuelle. Je dis bien intellectuelle, pas rationnelle. Une certaine connaissance intellectuelle de l'autre, comme mon bien. Il est mon bien, c'est lui que j'aime. Ordinairement, on ne s'aperçoit de cet amour que par la séparation. Parce qu'il est très discret, il est très caché, à la très grande différence de l'amour passionnel qui n'est jamais discret. La passion n'est jamais discrète. La passion, elle éclate et elle se manifeste à gros sanglots ou à un désir de possession. Tandis que l'amour spirituel est toujours discret. Parce qu'il implique ce dépassement de soi. Et dès qu'on est au-delà de soi, on est justement discret. C'est ce dépassement à l'égard d'un bien spirituel, d'un bien personnel, qui se fait à partir d'une connaissance spirituelle. À partir de la connaissance que j'ai du bien spirituel, que j'aime l'autre. Cet amour spirituel demande d'assumer tous les autres amours, toutes les autres modalités d'amour. Et cet amour spirituel qui demande d'assumer toutes les autres modalités d'amour a un caractère propre. C'est justement d'être extatique, de se porter sur l'autre, sur le bien, en ne regardant que l'autre. J'aime l'autre pour lui-même. Et je l'aime de cette manière telle que je le respecte tel qu'il est, puisque pour l'aimer pour lui-même, il faut le respecter. Autrement, je ne l'aime pas vraiment. Je ne l'aime pas pour lui-même. Il faut le respecter dans son altérité, dans sa diversité. Donc, ce premier amour volontaire coïncide avec cette volonté d'aimer. Et ceci, c'est capital pour nous de bien comprendre cela. Parce que pour nous, qui sommes toujours un peu cartésiens, nous avons beaucoup de peine à comprendre que la volonté est premièrement une volonté d'amour. Et non pas une volonté d'efficacité. Pour Descartes, peu stoïcien. La volonté est une volonté d'efficacité et non pas une volonté d'amour. Pour Descartes, l'amour est premièrement au niveau passionnel, au niveau instinctif. L'amour n'est pas premièrement au niveau spirituel. Oui, confusion entre l'ordre génétique et l'ordre de perfection. Et il ne voit pas que l'amour spirituel est premièrement une volonté d'aimer. Au point de vue spirituel, j'aime dans la mesure où je veux aimer. Et c'est cette volonté d'aimer qui permet à mon amour spirituel de se développer. Vous voyez, c'est là où il y a l'éducation de l'amour. S'il n'y avait pas une volonté d'aimer, il n'y aurait pas d'éducation de l'amour. Pourquoi nous sommes si mal éduqués? C'est parce qu'on ne nous a jamais éduqués du côté de l'amour. On nous a éduqués du côté de la tempérance, du côté de la chasteté, du côté des vertus. Mais on ne nous a pas éduqués du côté de l'amour. Et parce qu'on ne nous a pas éduqués du côté de l'amour, il n'y a pas cette volonté d'aimer. Et c'est pour ça que nous restons des hommes fragiles du côté de la volonté. Parce que notre force de volonté, elle s'enracine dans l'amour. C'est quand on aime qu'on est fort. Il n'y a pas de force profonde sans amour. Descartes a fait que les êtres soient généreux, efficaces, mais pas forts. Donc a supprimé les hommes de tempérament. Il avait des hommes passionnés. La passion ne rend pas fort. La passion rend véhément. La passion rend généreux, mais pas fort. On est généreux momentanément, on n'est pas fort. La force, c'est la continuité et c'est la patience. C'est accepter quelque chose qui ne va pas dans notre sens. Tandis que l'homme passionné n'accepte jamais quelque chose qui n'est pas dans son sens. Il s'irrite, il se met en colère. Et la colère est un signe de manque de force. Sauf les colères parfaitement mesuré et dominé. Il y a des colères qui sont des signes de force. Et la colère spontanée qui jaillit de notre cœur parce que ça ne va pas dans le sens que nous avions prévu. Alors, ces colères-là sont signes de faiblesse, sont signes de fragilité. Premier amour spirituel, c'est donc un amour qui se porte vers l'autre. L'amour est extatique. L'amour spirituel est extatique, pas l'amour passionnel, pas l'amour instinctif. L'amour passionnel et l'amour instinctif est possessif. Et donc, il met la main dessus. On met la main sur les chocolats. Et on la referme. Et on possède. Tandis qu'au contraire, l'amour spirituel est oblatif, comme on dit au point de vue psychologique. Et je dis, il est extatique. Il est oblatif parce qu'il est extatique. Le psychologue ne donne jamais les raisons. Il constate. Tandis que l'amour passionnel est possessif parce qu'il est sensible. Et il attire. On met le chocolat dans sa poche. Et il fond. Parce que ensuite on est colérique. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient vous dire, vous n'avez pas le droit de mettre ce chocolat dans votre poche, le douanier. Et alors vous entrez en colère. L'amour spirituel est oblatif parce qu'il est justement extatique. Je me porte vers l'autre par amour pour et je veux l'aimer dans ce qu'il a de plus lui-même, dans ce qu'il a de plus profond. Et à ce moment-là, je m'offre tout entier pour l'aimer. Et je suis tout entier porté vers lui pour l'aimer. C'est pour ça que ce premier amour spirituel, il est extatique. Il me déloge de moi-même. Et j'accepte d'être délogé. J'accepte d'être pauvre. Dans le banquet, l'amour implique la surabondance et la pauvreté. La surabondance, c'est l'extase. Je me donne. Quand on est dans une attitude extatique, on est entièrement donné. Puisqu'on est tout entier porté vers lui. Et en même temps, l'amour appauvrit, il me dépouille de moi-même. Je n'ai plus rien à moi. Je suis entièrement tourné vers l'autre. Et parce que l'amour appauvrit, l'amour me rend accueillant. Dès que j'aime, je suis accueillant vis-à-vis de la personne que j'aime. Je suis au-delà du temps. Je n'ai plus aucune occupation. Je suis libre pour la personne que j'aime. J'ai tout le temps pour la personne que j'aime. Parce que je suis dans cette attitude de celui qui accueille. Quand on aime, quelqu'un est accueillant. On l'accueille tout entier, tel qu'il est. On l'accueille pour lui-même. Vous voyez, ces deux attitudes très très profondes de l'amour, l'extase et l'accueil, qui permettent de comprendre ce que Platon décrivait en disant la surabondance.